Vous savez que tout au long de l'année, nous lisons en lecture continue l'évangile de Matthieu. Et l'évangile de Matthieu, il est assez facile à comprendre parce qu'il y a cinq grandes parties qui vont nous aider à rentrer dans la foi, dans le message de Jésus, à être plus proche de lui, à devenir ses disciples. Nous sommes dans la troisième partie qui commence avec un discours, et ce sont les paraboles qu'on a lues il y a quelques dimanches. Et les paraboles, elles parlent de la parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs, mais qui ne doit pas rester toute petite, au sec comme ça, rabougrie, mais qui doit mourir pour porter du fruit. Et dans le récit qui continue, les chapitres 14 à 17, on va nous expliquer, on va nous montrer le chemin par lequel la foi a grandi dans le cœur des apôtres, la foi grandit dans notre cœur. Et aujourd'hui, on se trouve au cœur, avec ce qu'on va appeler la profession de foi de Pierre ou la confession de foi de Pierre. Il va confesser, il va proclamer, il va dire qui est Jésus. Jésus se demande d'abord qu'est-ce que les gens disent ? Qu'est-ce qu'on sait ? Un peu comme on commencerait quelque chose en disant mais qu'est-ce que vous pensez de Jésus ? C'est qui Jésus ? Et alors chacun va y aller de comment il apprécie. Mais voyez, au contraire de ce qui va se passer avec Pierre aujourd'hui, qui va être vraiment cette naissance, comme nous sommes appelés qu'en faisant le jour de notre baptême, le jour de notre profession de foi, le jour de la nuit de la Pâque, et chaque dimanche qui est cette nuit de la Pâque qui se renouvelle, nous sommes appelés à professer la foi, à dire notre conviction, notre connaissance intime de Jésus. Ici, on répond suivant l'opinion. Vous savez, quand on dit dans l'Église « je crois », ça veut dire « c'est ferme, j'adhère, c'est solide et je vais avec ». Mais quand on dit dans le monde « je crois », ben je crois bien peut-être que. Hein, voilà. Et ils ont une connaissance extérieure qui, sans être tout à fait fausse, parce que ce n'est pas idiot ce qu'ils disent, mais elle est insuffisante. Effectivement, ils le voient comme Jean-Baptiste ou Élie. Élie, c'est l'espoir de la restauration d'Israël, c'est extraordinaire. Jérémie, ça va encore plus loin, c'est peut-être encore plus pointu comme vision sur Jésus, parce qu'il parle aussi de la passion, il énonce l'échec de l'alliance sous les formes traditionnelles du sanctuaire, etc. Mais en même temps, c'est porteur d'une alliance, d'une promesse d'alliance nouvelle, que cette parole qu'on n'arrive pas avec l'esprit nouveau mis dans nos cœurs, alors on va pouvoir vivre cette naissance nouvelle, il va se passer quelque chose. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Mais ils réduisent Jésus à un prophète parmi d'autres. Ils n'accèdent pas à ce qu'il y a de nouveau, de ce qu'il y a d'original, de ce qu'il y a de spécifique de Jésus. Et ainsi, dans notre monde aujourd'hui, énormément de gens pensent, oui, Jésus, c'est un grand homme religieux qui, comme disait le philosophe Karl Jaspers, eh bien, c'est comme Socrate. Il y a quatre grands personnages dans l'histoire, Socrate, Bouddha, Jésus, Confucius, et puis qui nous parlent de Dieu, etc. Voyez, ils ont cette connaissance extérieure de Jésus et qui reflète quelque chose d'une expérience religieuse, mais ils veulent rendre compte de cette dimension infinie de Jésus dans une dimension limitée à leur esprit fini. C'est un peu ce qu'on appelle le complexe d'Obélix. Si vous vous souvenez d'Obélix dans le Tour de Gaulle, alors c'est du tourisme, il visite plein de choses, et puis Ils disent, Obélix est toujours là. Ah oui, mais ça ressemble à, c'est comme. Et souvent, quand on est en voyage, on est toujours un peu comme ça. On dit, on ramène les choses à ce qu'on en connaît dans nos catégories. Mais pour Jésus, alors ça reste Jésus, un prophète. Voilà. Alors peut-être même que là-dessus, il y a des gens qui peuvent aimer Jésus, qui peuvent même le prendre comme un guide de leur vie. Mais il n'y a plus cet engagement ultime, ce don total qui s'exprime tellement bien dans la vie religieuse ou le sacerdoce, mais aussi dans la consécration de chaque chrétien, dans l'engagement de Jésus qui engage nos vies à se laisser transformer par cette parole. Et puis Jésus parle aux disciples. Il demande, mais vous, qu'est-ce que vous dites ? Alors, il y a un moment extraordinaire où Pierre va parler, j'allais dire, plus vite que sa réflexion. Il va parler avec cette intuition profonde. Il va parler sous le coup d'une inspiration de l'Esprit Saint. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est cette profession de foi où il ne réduit plus, alors c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas penser, mais qu'ils ont déjà expérimenté dans leur vie, parce qu'ils ont expérimenté à certains moments où il a paru que Jésus était plus qu'un prophète, où Jésus était cette présence du Dieu vivant. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on a eu, après la multiplication des pains, Jésus qui marche sur les eaux. Et à ce moment-là, et puis la tempête, etc. Et puis Jésus calme la mer. Et à ce moment-là, ils sont saisis d'effroi. Vous savez, cette expérience, comme le rapporte aussi une sainte Catherine de Sienne, quand on entre en présence du Dieu vivant, c'est une autre dimension. Il prend comme un tremblement, comme une crainte profonde. Seigneur, éloigne-toi de moi, je ne suis pas digne, je suis pécheur, hein, que Pierre. Et à plusieurs moments dans l'Évangile, ils ont déjà perçu cela. Mais ici, c'est vraiment cette connaissance intime. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela. Et vous vous souvenez, dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, on nous parlait justement de cette connaissance. Le Verbe est venu dans le monde et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'enfant de Dieu, et ils sont nés ils ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. C'est vraiment entrer dans cette identité de Jésus, qui ici est encore, si vous voulez, d'une certaine manière, dans les trois évangiles synoptiques et dans Saint Jean, il y a des formules un petit peu différentes et on sent que c'est quelque chose qui prend forme petit à petit, qui rend compte, mais c'est vraiment cette profession de foi qui prendra toute son ampleur avec après la passion et la résurrection de Jésus, quand Thomas, mettant ses mains dans les plaies de Jésus, dira « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et vous voyez, dans cette expérience aussi, on voit bien qu'il y a un passage. Le Pierre, au moment de la tempête apaisée, avant, on appelait Jésus « Maître ». Et une fois qu'il y a cette expérience d'une dimension nouvelle, d'une force nouvelle, il l'appelle Seigneur, reprenant le mot qui était employé dans l'Ancien Testament pour couvrant le nom imprononçable, le nom de Dieu, cette présence totale de Dieu, hein, et que pour ne pas le prononcer, on disait Seigneur, mais c'est ce titre qu'il donne. Et c'est vraiment ce spécifique de notre foi chrétienne ici qui est en jeu. C'est ce spécifique de ce chemin avec Jésus. C'est ce spécifique aussi de ne pas regarder simplement Jésus de l'extérieur. Si vous regardez le passage dans l'évangile de Luc, c'est très intéressant parce que juste avant ce passage, on voit Jésus qui est en prière. Parce que cela vient de cette profession de foi, cette grâce de connaître l'intimité de Jésus, cela vient de sa prière, lui qui appelle Dieu, contre toute attente, « Abba, Papa, Père chéri », et qui a cette intimité avec le Seigneur. Et cette intimité qu'il va nous livrer. Le texte ici, c'est les découpes de la liturgie, mais nous ne pouvons pas ne pas avoir dans la tête, pour compléter cette profession de foi, le passage qui suit juste après. Parce que, vous savez, chaque fois que dans l'Évangile, et ça nous paraît bizarre, quand on prend au début de l'Évangile, c'est les démons qui appellent Jésus le Christ ou le Fils de Dieu, et puis Jésus leur dit de se taire, et puis encore ici, Jésus ne dit pas, parce que Jésus pourrait nous induire, j'allais dire, dans un sens, dans une ambiguïté, de prendre Jésus pour le Christ, le Fils du Dieu vivant, ce serait... dans un sens aussi, penser comme on avait tous dans la tête et comme on attend tous de Dieu, qu'il rétablisse l'ordre, que le monde soit enfin en paix, que ce soit la prospérité pour tout le monde, que ce soit le Messie militaire et qui arrange, ou comme après la multiplication des pains, qui vient arranger notre vie matérielle et plus de soucis, enfin le rêve de tout homme finalement. Et Jésus va leur parler tout de suite de la manière d'être Messie. Car ce que Jésus révèle de son identité ici, ce n'est pas simplement un titre, quelque chose qui dit son être, mais ce qu'il vient faire et comment il vient faire. Et il va parler tout de suite, non pas de sa manière d'être le Messie, non pas à la manière des hommes, pour être un roi qui se fait servir, etc., mais au contraire, qui sert, qui prend la dernière place, et qui, s'il est l'égal de Dieu, mais qui s'est dépouillé de tout pour se faire serviteur, serviteur jusqu'à la mort et la mort de la croix, se faire serviteur jusqu'à donner sa vie pour nous, jusqu'à nous racheter du mal, nous racheter de nos péchés et pour nous permettre de rentrer dans une vie nouvelle. Et d'ailleurs, le passage juste après, eh bien, ce sera ces consignes aux disciples, ces conditions pour suivre Jésus, de ne pas vouloir gagner sa vie, mais de savoir la perdre à la suite de Jésus. Et vous voyez, cette profession de foi, ce n'est pas juste quelque chose qu'on dit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on affirme en disant « ça nous appartient et nous rentrons dans ce mystère et nous suivons ce Jésus et nous en faisons notre mode de vie ». Voilà ce qui va se passer quand on va dire le credo, quand on dit le credo tous les dimanches, quand on dit le credo aussi dans son cœur, mais là on le dit d'une manière publique le dimanche, hein. Et on le dit ensemble, parce que cette fois ici, Pierre, il parle au nom des apôtres, mais ça se développe aussi dans une communauté. Ça se reçoit dans une communauté vivante qui porte ce nom du Seigneur et cette mission du Seigneur, hein, de cette Église qui est appelée. Demandons la grâce de mettre nos pas dans les pas des apôtres, de mettre, comme on le dit toujours, notre foi, ce n'est pas simplement ce que je pense sur Dieu. Ma foi, c'est la foi de l'Église, c'est la foi de Pierre, c'est la foi des apôtres qui ont vécu avec Jésus, qui ont découvert qui il était et qui l'ont vu mort et ressuscité et qui ont reçu cet Esprit Saint. Demandons de vraiment nous laisser renforcer dans notre expérience de foi, de passer de cette connaissance extérieure à cette connaissance intime, profonde, qui profonde, mais qui rejaillit sur cet engagement de notre vie au service de Jésus et de la bonne nouvelle qu'il nous partage et dont il nous fait, ici avec Pierre, dont il nous fait les témoins et les acteurs vivants.